Alors, je vous invite à prendre 1 Thessaloniciens et au chapitre 2, et nous allons commencer à lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 16, même si le passage, le verset qui nous intéresse surtout, c'est le verset 13. Hein, donc, mais là, nous allons lire quand même le contexte. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Et commençons avec le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Et là, il faut regarder, pour savoir de quoi il fait référence, il faut voir ce qui se passe à Jérusalem à cette époque. Jérusalem est détruite par l'empereur Titus. Et tout est démoli, et c'est la pire des choses qui a pu leur arriver. Et donc, voilà. Ils ont dit, quand Christ est mort sur la croix, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Eh bien, c'est arrivé. Hein. Et à Jérusalem, cette époque-là, ben, le sang coulait à flot dans Jérusalem, les rues de Jérusalem. Donc, mais là, revenons à Thessaloniciens, Jésus était arrivé, Paul et c'est son équipe, hein, donc Timothée et Sylvain sont arrivés à Thessalonique. Et ce que nous allons voir dans ce passage, eh bien, c'est très simplement la réception qu'a reçue la parole de Dieu dans cette ville. Et il souligne trois points importants. Et bien sûr, s'ils sont importants, c'est parce qu'ils sont importants pour nous aussi aujourd'hui. D'abord, il a dit que vous avez entendu la parole, hein, verset 13. Vous avons fait entendre cette parole. Et puis, deuxièmement, il dit, vous avez reçu cette parole. Hein, on peut entendre et puis ne rien faire avec. Hein. Mais il a dit, vous l'avez entendu, vous l'avez reçu. Et puis, troisièmement, eh bien, vous l'avez laissé agir en vous. Hein, donc, la parole a pu produire son fruit. Alors, vous savez, la vraie conversion. On parle du mot conversion. Conversion, le mot convertir veut dire qu'on a, il y a une chose et puis elle est convertie à autre chose. Donc, normalement, ce n'est plus la même chose. Hein, si je convertis du courant du 220 en du 110, c'est que je n'ai plus du 220, hein, c'est que du 110. Si je convertis mon fourgon en camping-car, c'est que maintenant ce n'est plus juste un fourgon, mais maintenant c'est un camping-car qui sert à autre chose, qui a une autre fonction. Donc c'est ça. Alors quand on parle de conversion dans la foi, eh bien c'est pas une question de changer de religion. Hein. Peut-être c'est ce que les gens comprennent, c'est la pratique. Mais la vraie conversion, selon l'Évangile, est celle qui est à Christ, pas au christianisme. Hein. C'est se convertir à Christ. Beaucoup de gens se convertissent au christianisme, et puis on a un drôle de christianisme. Hein, mais quand on se convertit à Christ, alors là, il y a du changement. Parce qu'on se convertit à quelqu'un qui peut faire une œuvre en nous. Un certain missiologue, le docteur Edward Shorter, a évalué un phénomène qu'il a appelé la conversion marginale au christianisme. La conversion marginale au christianisme. Donc, c'est des gens qui croient se convertir au christianisme, mais ça reste marginal. C'est quelque chose d'accessoire. Et voilà comment il est décrit. Elle se constate quand, face à des difficultés insurmontables ou incontournables, la personne retourne facilement à son mode de vie précédent. Elle a repris la vision du monde qu'elle avait avant de connaître l'Évangile. Elle avait adopté le christianisme pour ce qu'il devait lui apporter. Mais dès que le bien escompté n'est plus là, cette personne retourne à ce qu'elle connaissait auparavant. Elle est plus à l'aise avec son ancienne manière de voir la vie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est venu au christianisme par intérêt, parce que ça allait m'apporter quelque chose. Et je sais qu'une accusation qui est faite souvent en Afrique du Nord, il dit que les gens se convertissent au christianisme, et en fait, c'est pour avoir un visa pour aller en France. Donc, c'est par intérêt. Il y en a d'autres qui se convertissent au christianisme, c'est juste pour pouvoir se marier à une telle personne, un garçon ou une fille. Et donc ils font le nécessaire pour se convertir. Mais ils appellent ça, c'est une conversion marginale au christianisme. Et ce n'est pas ce qui est arrivé à Thessalonique. Cette personne qui se convertit par intérêt, eh bien, c'est une personne qui ne sera jamais très engagée dans sa vie et surtout pas disposée à faire des sacrifices. Parce qu'il n'y a pas de conviction. C'est par intérêt. Donc, il le fait pour avoir quelque chose, pas pour lâcher quelque chose. Et ça se voit. Hein, et c'est quelqu'un sur Facebook... avait mis un petit truc, il a dit « Nous ne sommes pas appelés à être comme les autres chrétiens, mais nous sommes appelés à être comme Christ. » Et c'est ça, conversion au christianisme, c'est être comme les chrétiens. Conversion à Christ, ça c'est autre chose. Hein? Et cette personne qui a ce genre de conversion, eh bien, c'est une catégorie de personnes qui se trouvera rapidement écartée de la voie du Seigneur. Parce qu'elle n'est pas attachée à Christ. Donc, dès qu'elle trouve une autre chose qui est de plus intéressant, dès qu'elle trouve une distraction, elle est partie. Parce qu'elle n'est pas attachée. Mais, et Paul avait crainte que cela n'arrive à Thessalonique, parce qu'ils ont passé un temps très court. Ils ont prêché l'Évangile rapidement, beaucoup de gens sont venus, mais après il y a eu la persécution et l'apôtre Paul et son équipe, ils ont dû partir vers Athènes, ils ont fui, hein, dans un sens, même ils ont employé la stratégie, parce qu'il y en a qui sont partis par la mer et d'autres par la terre, ils se sont dispersés pour se retrouver à Athènes. Et donc, l'apôtre Paul avait peur que... Et peur que ça n'avait pas tenu. Ça n'avait pas vraiment. Ils avaient été chassés trop tôt pour qu'il y ait eu des vraies conversions. Alors il avait envoyé, et en lisant le chapitre 3, hein, nous y arriverons, mais en lisant le chapitre 3, il dit on a envoyé Timothée pour aller voir ce qu'il en était. Et il dit, et Timothée est revenu avec des bonnes nouvelles. Que c'était des vraies conversions. Vous êtes restés fidèles, et il y a eu des persécutions, il y a eu même, quand on lit le chapitre 4, il y a eu même des gens qui ont perdu leur vie à cause de leur foi, mais il a dit, vous êtes restés fermes. Ça, c'est de la vraie conversion. Ça, c'est vraiment venir à Christ, et à Christ, hein, pas à quelqu'un d'autre. Vous savez, une vraie conversion, il y a une rupture irrémédiable, une rupture totale avec ce qu'il y avait avant. C'est un peu, si vous connaissez Matthieu qui est devenu un des disciples, mais Matthieu avant était publicain, donc collecteur d'impôts, il était assis au péage, et quand Jésus l'a appelé, il lui a dit « viens, suis-moi », eh bien, il n'a pas pris le bureau avec lui, il a tout laissé. Il a tout laissé et il est parti. Et comme c'était un poste de péage qui était certainement qui rapportait, c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris le poste. Hein, on l'a passé à quelqu'un d'autre. Alors, Matthieu, il n'est jamais retourné à son poste. Il est resté fidèle au Seigneur. Tandis que Pierre, que vous connaissez, Pierre, quand Jésus a dit « Suis-moi », il a suivi, mais les filets, les bateaux sont toujours restés au bord de la mer. Et par la suite, quand les choses c'était pas tout à fait comme ils avaient prévu, et Jésus se fait mettre à mort, et puis il est enterré, oui, il est ressuscité, mais bon, c'est plus la même chose. Alors, c'est parce qu'il avait encore les bateaux, et parce qu'il avait encore les filets qui étaient encore sur la plage, eh bien, il a dit à d'autres disciples, il a dit, écoutez, moi, je vais à la pêche. Et ce soir-là, il a pris son bateau, puis il est retourné à la pêche. Il a dit, bon, on a suivi Jésus, on y croyait vraiment, mais bon, c'était pas exactement ce qu'on avait prévu. Moi, je reprends mon métier, et puis voilà, on continue, et puis voilà, c'était une bonne expérience. Et il fait la pêche toute la nuit, et il n'y a rien. Et certainement qu'il était très déçu, parce que maintenant, ça n'a pas marché avec Jésus, et maintenant, ça ne marche pas à la pêche non plus. Et Jésus arrive comme par hasard. Vous savez, les hasards avec Dieu, ça n'existe pas. Mais Jésus arrive le matin, puis il dit, hey, vous avez pris du poisson ? Il ne faut jamais demander à un pêcheur qu'il n'a pas pris de poisson, il ne faut pas lui demander s'il a pris du poisson. Il n'aime pas ça. Vous avez pris du poisson ? Non. Il dit, bah alors jetez le filet. Il jette le filet, et tout d'un coup, c'est rempli. Il dit, Pierre, il dit, ça doit être Jésus. Je ne vois pas bien, il fait encore sombre, mais ça doit être Jésus, parce que je connais un seul qui fait ça. Hein, c'est un tour à lui. Hein. Et Jésus dit, écoute, Pierre, tu vas me suivre maintenant. Et ça, c'est autre chose. Là, Pierre n'est plus retourné au poisson. On ne le voit plus avec un bateau, on ne le voit plus avec des filets, tout ça. Il y a un moment dans la vie. Hein, tant qu'on a encore des réserves, on n'a pas brûlé les ponts, on a gardé des issues de secours, l'engagement n'est pas total. Et là, quand on vient à Christ, eh bien, ça y est, je lâche tout et je mise tout sur lui. Hein. Et donc, j'ajoute un petit détail. Heureusement pour Pierre qu'il n'a pas attrapé de poisson. Parce que s'il avait pris des poissons cette nuit-là, il aurait continué à faire la pêche. Mais Dieu, dans sa grâce, il a caché tous les poissons de cette mer. Pierre, qui avait de l'expérience, qui savait normalement où ils étaient, eh ben, ils n'étaient pas là. Et Dieu, dans sa grâce, a caché les poissons pour que Pierre devienne... Vous savez, ça aurait changé beaucoup de choses, hein, si Pierre était retourné à la pêche. Parfois, vous savez, des fois, les choses ne se passent pas comme on veut, mais c'est une grâce de Dieu. Parfois, on a des projets qui ne réussissent pas, et puis plus tard, on dit, mais Dieu, merci, tu avais raison. Et là, Pierre, il a dû remercier Jésus combien de fois ? Ce qu'il n'est pas avoir pris de poisson. Pourtant, ils étaient là, hein, parce que quand Jésus a dit « Bon, ben, jette le filet », tout d'un coup, ils étaient tous là. Alors, mais pour avoir ce genre de conversion, où on se donne pleinement, hein, c'est pas juste on se réveille un matin, on dit « Tiens, je crois que je vais devenir chrétien, je vais devenir disciple de Christ ». Ça n'arrive pas comme ça, c'est pas une révélation, c'est pas parce qu'on a passé une mauvaise nuit non plus. Mais c'est parce que c'est toujours parce qu'on entend d'abord la parole de Dieu. Il faut l'entendre. Pas savoir que ça existe, il faut l'entendre. Et il nous dit dans ce chapitre, verset 13, « Et nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. » On vous l'a fait entendre et vous l'avez reçu. Vous l'avez entendu. Et de la bouche de ces témoins, hein, là, dans l'occurrence, c'est Paul, Timothée et Sylvain. Jésus avait dit à ses disciples, hein, quand il les a quittés, « Vous serez mes témoins, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Bien sûr, il ne parlait pas seulement aux 12 ou 11, mais il pensait à tous. Hein. Nous sommes tous des témoins, tous les disciples de Jésus-Christ. À toutes les périodes, nous sommes les témoins. Témoins, c'est-à-dire, je dis ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu, et je le répète, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'être théologien pour être un témoin. Il suffit d'avoir vu, hein, d'avoir vécu la chose, d'avoir entendu. Et alors, et finalement, Jésus est en train de dire, voilà le principe selon lequel je vais marcher. C'est que les gens pourront croire parce qu'ils auront entendu. Il faut qu'ils entendent pour croire. Jésus va se et Dieu va se restreindre à cette méthode. C'est pas les visions, c'est entendre la parole de Dieu. Et puis placer confiance en cette parole. Donc le message qui est propagé, proclamé, annoncé est par le moyen de témoins et pas par un autre moyen. Parfois ça peut être un témoignage écrit. Donc sur un document imprimé, parfois ça peut être une émission radio, ça peut être un enregistrement, ça peut être sur l'écran de l'internet, mais c'est toujours, il y a quelqu'un qui l'écrit. Hein, c'est pas comme ça, je regarde dans les nuages et je vois un message. C'est la parole de Dieu. Et puis, si c'est uniquement par le biais de témoins, eh bien, nous voulons que ces témoins soient fidèles pour donner un message sûr, vrai, complet, simple, oui, pour qu'il soit compris, et rien de plus, il ne faut pas ajouter. Il y a des gens qui parlent, mais après, ils ajoutent toujours, et ils se servent de Dieu pour avoir l'attention, puis après, ils passent des idées à eux. Et ça, c'est des témoins infidèles, des faux docteurs. Il faut que ce soit le message de l'évangile est strictement, et rien de plus, rien de moins. Et tellement Dieu est attaché à la chose, vous vous souvenez de l'histoire de Corneille, cet homme juste, pieux, de qui on parlait en bien. Corneille, il veut croire, il veut aller plus loin. Mais il n'y a personne. Il y a un ange qui lui apparaît, l'ange qui vient de Dieu, qui est là, mais l'ange ne va pas lui dire comment être sauvé. L'ange lui dira où trouver Pierre qui pourra lui dire. Et donc, rapidement, Corneille envoie quelqu'un chercher Pierre. Pierre vient et il annonce le message et tous reçoivent. Il faut qu'ils l'entendent d'un témoin humain. L'Éthiopien, hein, l'eunuque éthiopien, il était venu à Jérusalem, il avait acheté un rouleau du texte de l'Ancien Testament, le livre d'Ésaïe, et il rentrait chez lui, il était en train de lire. Et Dieu savait qu'il avait besoin de l'aide. Et Dieu lui envoie quelqu'un, Philippe, qui va jusqu'à lui, et puis qui monte dans son char, et qui lui explique la parole. Et là, il croit. C'est important. Et c'est pour ça que l'importance du témoin, si je lis le passage dans Romains chapitre 10, et l'apôtre Paul pose une série de questions, et bien sûr, c'est à nous de répondre à ces questions, mais c'est tellement évident. Romains chapitre 10, et je lis les versets 14 et 15, le début de 15, il dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ?» Donc il dit « Comment voulez-vous qu'ils croient ?» S'ils ne savent même pas qu'il existe, s'ils ne sont pas au courant, on ne peut pas croire en celui qu'on ne connaît pas, dont on n'a jamais entendu parler. Et c'est comme celui qui dit, moi je crois en Dieu, mais il n'a jamais ouvert la Bible. Mais Mais tu crois en Dieu, mais c'est Dieu, c'est quoi pour toi? C'est vraiment abstrait. Ne peut pas. Il faut lire le texte où il est révélé, et puis on dit, ah, c'est ce Dieu-là que je veux. Sinon, c'est un Dieu de notre imagination. Hein? Et s'il fallait faire la collection de toutes les idées que les gens ont de Dieu, alors là, il y aurait plus de théories que de fromage en France. Hein? Chacun aurait son idée. Mais verset 17, il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Christ ou de Dieu. Il faut avoir entendu, sinon je ne peux pas dire je crois. Hein? Et la question c'est, ben, en fait, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un vous a parlé, ou parce que quelque part il y a eu quelque chose et il y a un message à entendre, et s'il y a quoi que ce soit qui s'est fait dans notre cœur, et s'il y a même un embryon de foi, c'est qu'il y a quelque part on a entendu quelque chose de la parole de Dieu. On l'a lu, on l'a entendu, et on s'est accroché à ce peu. On n'a pas besoin de comprendre beaucoup de choses, d'avoir beaucoup entendu, mais à partir du moment où je commence, j'accepte ce que j'entends, je reçois ce que j'entends de la parole de Dieu, eh bien, la foi se développe. Donc, c'est important de l'entendre, c'est important de le faire entendre. Hein, ceux qui sont autour de nous ne pourront pas l'entendre si on n'en parle pas. Et puis après, ceux qui l'entendent, après, ça devient leur responsabilité. Après, c'est de recevoir. Hein. Et beaucoup ont entendu, mais n'ont rien fait avec. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que quand Paul et son équipe ont été chassés de Thessalonique, il a été se réfugier à Athènes, une ville très païenne. Et là, il y avait une grande place. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui arrivait avec une nouvelle idée, une nouvelle religion, une nouvelle tout ça, eh ben on lui demandait de prendre la parole, et puis les gens écoutaient pour voir ce qu'ils pensaient de ce que cette personne pouvait dire. Alors ils ont fait la même chose avec l'apôtre Paul. Ils l'ont mis sur l'aéropage, et puis ils l'ont dit, écoute, raconte, tu as des idées nouvelles qu'on n'a jamais entendues, vas-y, raconte. Mais vous savez, ils n'ont pas cru. Presque personne n'a cru. Bon, il y a eu l'aéropagite, Denis, qui a cru, mais très peu ont cru. Pourquoi? Parce que, à cause de leur attitude, ils ont écouté, mais dans le sens de « je vais écouter, je vais voir ce que j'en pense. Et si ça me plaît, ça va. Si ça ne me plaît pas, je laisse tomber. » Donc, c'est comme une parole, une pensée parmi d'autres pensées. Une parole parmi d'autres paroles. Tandis que vous voyez dans Éphésiens, Thessaloniciens, là, il dit « vous l'avez reçu cette parole comme ce qu'elle était, parole de Dieu. Hein, » quand vous l'avez entendue, vous l'avez pris pas comme encore une nouvelle idée, mais comme étant la parole de Dieu. Et ça, c'est important. Et ces aéropagites, eh bien, eux, ben, ils avaient pris ça. Vous savez, ce qui arrive, c'est que les gens, ils prennent et écoutent cette parole, et ils le font passer par une grille, mais la leur. Hein, donc, ils font passer par leur grille, dans leur tête, ils ont certains concepts, ils ont quelques idées, ils écoutent, ça passe. Ces aéropagites, ces gens athéniens, eh ben, ils ont dit, quand Paul est arrivé à la concept de la résurrection, ils ont dit, on t'écoutera un autre jour. Ça, c'est pas passé. Et ils sont arrêtés. Et de nos jours, les gens, on peut leur parler, et puis ils font passer la parole de Dieu par une grille qu'ils ont dans leur tête. Et puis si ça passe pas, bah, ça m'intéresse pas. Alors que ce n'est pas l'attitude à avoir. L'attitude à avoir, c'est la Bible qui a une grille, et c'est moi qui essaye de voir si je passe par la grille de la parole de Dieu. C'est pas moi qui juge la parole de Dieu pour voir si ça me convient. C'est la parole de Dieu qui doit me juger pour voir si je conviens à Dieu. Et c'est ça qui fait la différence. Je me souviens qu'il y avait un Syrien qui était venu, Et il a dit, quelqu'un m'a donné un Nouveau Testament, et je l'ai lu, je ne sais pas, 7 fois, il a dit, je l'ai lu en entier 7 fois, mais ça ne m'a pas affecté. Il dit, après, je l'ai lu une autre fois, mais les autres fois, je la lisais, c'est pour voir ce que j'en pensais. Mais il a dit, la dernière fois, quand je l'ai lu, c'était pour voir ce qu'elle disait de moi. Il a dit, je suis converti à Christ. Il a quitté sa religion, il est devenu chrétien, il a été persécuté, il a failli être tué par son père. Mais la question c'est, il a dit, j'ai lu 7 fois d'une manière, mais quand je l'ai lu ou je me suis laissé évaluer par le livre, il dit, c'est là où j'ai été transformé. C'était un changement de vie. Et c'est ça l'attitude que nous avons besoin d'avoir. Ce n'est pas une question de lire les mots et voir si ça nous plaît. C'est de dire, mais ce sont les paroles. Qui a dit ces paroles? Et si c'est réellement Dieu qui a prononcé ces paroles, alors là, c'est autre chose. Et je dois avoir toute une autre attitude. Bien sûr que... Et les hommes aiment faire circuler cette idée que la Bible, ben, c'est des idées des hommes. Ils ont écrit ça. C'est une collection d'idées sur des milliers d'années. Sur presque 1800 ans, ça a été une collection, puis bon, c'est des idées d'hommes. Et tant que c'est des idées d'hommes, on ne se sent pas trop engagé. Mais à partir du moment que je reconnais que c'est la parole de Dieu, après ça, c'est autre chose. Je me suis, tout d'un coup, je suis responsable. Et vous savez, des fois, l'idée, l'homme se croit assez puissant quand même. Mais on se fait des idées fausses. Vous savez, un problème moderne, c'est les gens qui deviennent accros de la télé. Ça devient une drogue. Il dit, la télé, il ne peut pas s'en passer. Et il a la télécommande à la main, comme s'il était maître, mais finalement, c'est la télé qui le commande. Vous savez, si l'homme est aussi faible et il ne peut même pas contrôler un appareil électronique là où il a une télécommande, où il peut zapper comme il veut, eh bien, la question c'est, est-ce qu'il peut se faire confiance pour des autres choses? Vous savez, si je suis impuissant, si je ne suis pas aussi extraordinaire que j'aimerais croire, eh bien, il vaut mieux choisir quelqu'un pour diriger ma vie, et quelqu'un de confiance. Si je ne suis pas capable, alors je demande à quelqu'un qui en est capable, à qui je peux faire confiance, pour diriger ma vie et pour conduire ma vie. Et la question, c'est, est-ce que je suis au point où la parole de Dieu et l'autorité finale en matière de foi et de pratique. C'est-à-dire, je suis arrivé au point où, si c'est dans la Bible, je le crois. Si la Bible le dit, je le fais. Si la Bible dit de ne pas le faire, je ne le fais pas. Peu importe ce que j'ai envie de faire, ce que j'aimerais faire, ce que les gens font autour de moi, peu importe. Et je ne sais pas comment il est possible de faire ce que font les gens. Ils font tellement de choses contradictoires, il est impossible de les suivre. Il dit, tout le monde le fait. Qui est tout le monde? Je vois personne qui fait la même chose. Ils ne s'habillent même pas pareil. Il y en a un qui colore les cheveux, l'autre qui ceci, l'autre ceci. On ne peut pas suivre, il n'y a même pas une mode à suivre. Mais si je reviens... Vous savez... Comment Satan a perturbé Ève avec une petite question. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il l'a perturbé assez pour qu'on ait des ennuis depuis. Et vous savez, dans mon esprit, Satan veut venir dire, mais tu es sûr? Ça, tu es sûr que c'est bien la parole de Dieu, c'est bien ce qu'il a dit, tu crois? C'est quand même un peu vieux ça, hein? c'est pas à jour. Il suffit de commencer à mettre en pratique et on se rend compte combien c'est à jour. Donc, il est important d'entendre la parole de Dieu, important de recevoir la parole de Dieu. Et puis ensuite, si je l'ai reçue, je la laisse agir dans ma vie. La parole de Dieu est souvent comparée à une semence. Une semence, peu importe ce qu'elle est, laquelle des semences, à partir du moment où vous la mettez dans une bonne terre, elle va faire ce qu'elle a à faire. Vous pouvez compter dessus. Hein. Si l'agriculteur, il allait jeter un quintal de blé dans le champ, mais il ne sait pas si ça va donner du maïs ou du blé ou autre chose, il sait, on verra hein, ce que ça va donner. Ou des radis, ou des concombres, ah, ce serait quand même difficile. Non, l'agriculteur sait que si il met du blé, et pas seulement n'importe quel blé, mais du bon blé, eh bien il aura, parce que le grain donne selon sa nature. Vous savez, la parole de Dieu, c'est une semence aussi. Et si on la met dans une bonne terre, si mon cœur est une bonne terre, qu'il la reçoit et qu'il la laisse s'épanouir, eh bien, elle portera du fruit selon sa nature. Jésus, dans Matthieu 13, il a raconté une parabole des terrains. Il a dit qu'il y avait un terrain où il y avait un chemin. Et une partie de la semence est tombée sur ce chemin. La terre était tassée parce que les gens avaient piétiné cet endroit-là. La terre était bonne, mais elle était piétinée, elle était trop dure. La semence n'a pas pénétré. Les oiseaux ont mangé le blé, puis ça n'a rien donné. Il dit, après, il y avait un autre bout de terrain. Et c'est qu'il y avait des cailloux là. La terre était bonne, mais il y avait beaucoup de cailloux dans la terre. Et il dit, la semence, elle a commencé, mais comme il y avait tellement de cailloux, et puis dès que le soleil est levé, ça a chauffé, il n'y avait pas assez d'humidité, c'est mort. Il dit, après, il y avait un autre coin du terrain, c'est que la semence est tombée, la terre était bonne, mais c'était qu'il n'y avait pas seul, il y avait beaucoup d'épines dans le coin aussi. Et eux sont montés, vous savez, les épines, ça pousse toujours plus vite que le bon, hein. Et ça a étouffé la bonne semence. La terre, elle était bonne, mais le problème, c'était les épines qui étaient là. La terre était bonne, mais le problème, c'était les pierres qui étaient là. La terre était bonne, mais elle était piétinée et endurcie. Mais là, dans la bonne terre où tous les éléments étrangers avaient été enlevés, ça a produit du bon fruit. Alors si la parole de Dieu est semée dans notre cœur et ça ne porte pas le fruit qu'il faut, quel est le problème? C'est qu'il y a des éléments étrangers. Hein, il y a des cailloux, il y a des épines, il y a du passage, il y a beaucoup d'autres choses qui passent. Hein, entre deux dimanches, qu'est-ce qu'on n'a pas vu à la télé? Entre deux dimanches, qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur l'écran de l'ordinateur? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans le café? Ah, c'est sûr, après on dit, ah, mais ça ne change rien, ça ne donne pas. Oui, mais oui. Ou bien il y a des choses qui restent. Il y a des choses, j'ai des petites choses auxquelles je tiens. Je ne veux pas lâcher. Et c'est des petites choses secrètes, des petites passions secrètes. Bon, je sais que ça ne convient pas à la vie chrétienne, mais bon, j'aime ça. Oui, mais si c'est secret, c'est seulement secret aux autres, hein, mais par vous, ce n'est pas secret, hein, sinon vous ne l'auriez pas caché. Mais vous savez, c'est ces éléments-là, ces pierres qui sont cachées dans la terre, ça empêche la semence de prendre. Et après, il ne faut pas se plaindre que ça ne donne pas le fruit. J'ai un frère marocain qui est venu me voir, il a dit d'acheter un terrain. Et puis c'est un terrain où la terre est bonne, mais il y a beaucoup de cailloux dedans. Il a dit la première chose qu'ils ont faite, c'est comme il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à faire, et eh bien, ils ont dit aux gens, venez, vous ramassez, on vous donne tant pour chaque seau de cailloux que vous ramassez. Et puis il a dit, on a commencé. Ah, ben c'est propre, qu'est-ce qu'ils n'ont pas trouvé comme caillou là-dedans? Mais la terre était bonne. Mais il a dit, avant de commencer à l'utiliser, on a voulu enlever les cailloux. Et elle devient une meilleure terre. Et c'est pareil dans notre vie. Est-ce qu'il y a des cailloux qui traînent ? Oui, j'ai entendu la parole. Oui, je l'ai reçue. Je sais que c'est une bonne semence. Et oui, mais et le terrain ? Est-ce que je l'ai préparé ? Ou est-ce que j'ai laissé les épines et puis je les laisse trop longtemps aussi, hein, vous savez, on a un jardin et puis après on... j'ai pas le temps, je suis occupé et puis on voit les mauvaises herbes qui arrivent là. Je dis bon, j'ai pas le temps, je le ferai la semaine prochaine et puis, tout d'un coup, ça pique, vous savez, et puis j'ai un boulot, ça chauffe et puis ce qu'on a planté, ben, entre-temps, ils ne sont pas bien poussés. Vous savez, mais ça, ça arrive tout le temps. Quand on voit un jardin qui ne produit pas parce qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes, c'est la faute à qui si ça ne produit pas? Il y a un proverbe chinois qui dit, c'est pas les mauvaises herbes le problème, c'est le jardinier le problème. Les mauvaises herbes, il peut les enlever. Et c'est pareil dans nos vies. S'il y a des choses qui traînent, ben, il faut les enlever. Laissez que la parole fasse son œuvre en moi et produise du fruit. Dans Ésaïe 55, les versets 10 et 11, je vous les lis. Il dit, la parole de Dieu, selon Ésaïe, c'est comme la pluie et la neige qui tombent du ciel. Il n'y retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en est ainsi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. La pluie tombe. Elle pénètre dans le sol. Elle fait pousser le grain. Le grain est moissonné par... Et puis après, l'agriculteur se nourrit et l'eau s'évapore pour retomber plus tard. C'est un cycle, on appelle ça le cycle, on l'étudie à l'école, on l'a tous étudié, ce cycle, et on dit, ah, c'est beau. C'est comme tout à l'heure, là, quand tu disais que les hommes, ils sont contents d'eux parce qu'ils ont réussi à mettre une machine sur une comète. C'est une comète. Bon, c'est un peu branlant, mais quand même, ils ont réussi à le mettre. Ils sont contents d'eux. Mais s'ils l'ont réussi, c'est parce que les lois que Dieu a établies sont fidèles. Les lois de la nature, hein, si Dieu avait pour la nature un horaire qui était aussi bon que celui de la SNCF, ah ben, ils n'arriveraient pas, hein, ils auraient raté depuis longtemps. On travaille avec ce que Dieu a mis en place, il n'y a personne de content de nous. Hein, c'est un peu comme les enfants quand on leur apprend, les mamans, ils leur apprennent à faire la cuisine. Maman est là, elle fait tout. Eux, ils sont là, ils tournent un petit peu, ils ont un peu de farine sur le truc. Et puis après, ils disent, c'est le gâteau que j'ai fait. C'est maman qui a tout fait. Hein? Mais ils sont contents d'eux, j'ai fait un gâteau. Les hommes, ils sont pareils. Hein? Ils ont fait tout ça avec ce que Dieu avait mis en place. Tout ce qu'ils ont fait, c'est utiliser ce que Dieu a mis à leur disposition. Et après, on essaie de dire que Dieu n'est pas là. Oui, la parole de Dieu veut venir et accomplir les desseins de Dieu. Hein, j'entends la parole, je la reçois, et puis je la laisse agir et transformer mes pensées. David, dans son psaume où il met en valeur la parole de Dieu, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Il dit « Je mets cette parole-là parce qu'elle va faire une œuvre, elle va changer mes passions. » Les choses qui m'attiraient avant, hein, où le premier soir on s'amuse, le deuxième soir on s'amuse, le troisième soir on s'amuse, mais après là, après un certain temps, avec ses plaisirs, on commence à avoir des ennuis. Hein? Que ce soit, quels que soient les plaisirs pour lesquels on paye dans le monde, il y a un moment où on s'en lasse, il y a un moment où ça commence à nous attirer des ennuis, où il y a un moment où il faut faire passer à un stade supérieur, il faut aller plus loin, risquer plus. Et dis-moi, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4 et verset 12, il dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, c'est-à-dire elle coupe des deux côtés. pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Déjà, vous arrivez, moi et vous, on a du mal à savoir exactement l'esprit et l'âme, c'est quoi. Et dit, mais la parole de Dieu, elle arrive à faire la différence. La parole de Dieu. Elle arrive à apporter ce qu'il faut à l'esprit de l'homme pour qu'il soit en communion avec Dieu. Et elle peut apporter la paix, le soulagement à l'âme. Et psychiquement, c'est important. Hein. Il n'y a pas que la santé du corps qui est importante, mais il y a la santé psychique qui est très importante aussi. Hein. On peut avoir un corps de fer, mais si je ne suis pas bien dedans, je ne suis pas bien du tout. Et il dit, cette parole de Dieu, elle peut. Et il y a des moments où on est comme ça abattu, et puis après on lit un verset biblique, et tout d'un coup on se sent mieux. Et il dit, elle partage âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous savez, ce qu'on entend, ça a beaucoup d'influence sur comment les choses se passent par la suite. Dans Matthieu chapitre 7, sur le sermon sur la montagne, eh bien, Jésus raconte, il dit, celui qui entend la parole de Dieu, c'est comme un homme, celui qui entend la parole de Dieu, c'est comme un homme qui construit une maison sur le sable. Et après, la tempête arrive, elle emporte tout. Mais il dit, celui qui entend la parole et qui la met en pratique, c'est comme un homme sage qui, quand il construit la maison, il la construit sur un roc. La même tempête arrive, les mêmes inondations arrivent, mais la maison ne bouge pas. Donc, ce n'est pas seulement une question d'entendre, c'est une question de mettre en pratique aussi. Sinon, on n'est pas meilleur que les autres qui nous entourent. Hein? Donc, il est possible d'être chrétien et d'être complètement déboussolé vraiment, on n'a pas l'air de se porter mieux que les autres. Mais c'est parce que j'ai besoin d'entendre la parole et de m'assurer que c'est vraiment la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, je la reçois comme parole de Dieu et je la reçois et puis je la laisse agir. Et si elle commence à expulser des choses, hein, il y a des gens que quand ils reçoivent Jésus dans leur cœur, ils disent, écoute Jésus, t'es bien gentil, je t'aime beaucoup, mais ce que tu vas faire... Voilà, je te donne un joli fauteuil dans le salon et tu restes là, tu ne bouges pas. Et puis moi, je continue ma vie. Et je suis content que tu es là et de temps en temps, je te dirai bonjour. Ou bien, il y a une question où je reçois Jésus dans la maison de ma vie et je dis, Jésus, écoute, tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, jette-le. Il y a quelque chose qui ne correspond pas, tu t'en occupes, tu fais ce que tu veux. Ah, ça, c'est autre chose. Ça, c'est... Jésus habite dans la vie. Il y a Jésus présent et il y a Jésus qui habite, qui fait sa demeure. Et ça, c'est complètement autre chose. Et c'est... Celui-là, il dit qu'il est chrétien et celui-là, il dit qu'il est chrétien. Mais quand on regarde ça en vidéo, c'est pas la même chose. C'est complètement notre principe. Et ce que Paul a vu chez ses Thessaloniciens, il a dit, vous avez entendu, vous avez reçu comme parole de Dieu, et vous avez mis en pratique, et vous avez été fidèles comme les chrétiens de Judée. L'œuvre, et il nous dit au verset 14, donc... De ce passage, il dit « car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ. » Vous êtes devenus, pourquoi vous avez laissé agir la parole et vous êtes devenus imitateurs. Vous ressemblez, alors que vous n'avez aucun rapport, vous êtes d'une autre culture, tout ça, mais vous ressemblez aux autres chrétiens de Judée qui vous ont précédés. Pourquoi ? Parce que c'est la même parole qui a fait son œuvre. Et vous savez, c'est extraordinaire, tout à l'heure je parlais avec notre sœur là, des voyages que je fais dans différents pays, je rencontre des chrétiens dans différents pays, mais vous savez, les vrais chrétiens engagés, eh ben, on se sent tout de suite à l'aise, on sait qu'on est de la même famille, on sait qu'on a les mêmes valeurs. Pourquoi ? Parce que c'est la même œuvre, c'est le même qui fait l'œuvre. en nous. J'ajoute un petit détail, je vous fais la remarque. C'est que à Thessalonique, Satan avait réussi à chasser Paul et son équipe de Thessalonique, mais il n'avait pas pu arrêter l'œuvre de Dieu dans les Thessaloniciens. Cette remarque nous rassure. Satan peut faire des choses, il peut créer des problèmes, il peut mettre des bâtons dans les roues, il peut faire des tas de choses. Mais il ne peut pas empêcher la parole de Dieu de faire son œuvre dans un cœur. Même si c'est des circonstances hostiles, peu importe ce qui est passé sur le terrain, peu importe ce qui a été existé sur le terrain, si on laisse agir la parole de Dieu, elle transforme l'œuvre. Je me rappelle, je lisais le témoignage de Steve Saint. Son père avait été parti dans les jungles de l'Amazonie et son père avait été massacré par les gens là, parce que bon, dans leur ignorance, ils n'ont pas su ce qu'ils ont soupçonné du mal, hein, et on ne leur en veut pas. Mais le fils est retourné avec sa mère, la mère est retournée, et puis la mère, elle a commencé à leur parler, elle a parlé de l'amour de Dieu, ils ont compris le message, ils ont commencé à le recevoir. Et bien ces hommes-là, qui dans l'esprit des êtres humains, on dit c'est des sauvages, et bien ils sont transformés en la personne de Jésus-Christ, les valeurs de Jésus-Christ et des gens honnêtes. Et finalement, ce Steve Saint, il dit, l'homme qui a tué mon père, actuellement je l'ai adopté comme un grand-père. C'est devenu pareil. Pourquoi ? Parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas le contexte. Ce n'est pas parce que l'un c'est la ville moderne et l'autre c'est la jungle. Ce n'est pas ça la différence. C'est que la parole de Dieu fait son œuvre. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que l'Évangile prêche. Et c'est ça que je crois. Et c'est ça que nous devons tous croire. Et pour cette ville et pour cette région aussi. Que Dieu fasse son œuvre. Et il est important que la parole de Dieu soit proclamée, qu'elle soit reçue, et puis qu'on la laisse agir. Bon, parfois, ça n'agit pas en une nuit, hein. Ça prend du temps pour transformer. Personnellement, j'ai reçu le Seigneur Jésus quand j'avais l'âge de 8 ans, et donc ça fait plus de 50 ans. Bon, ne demandez pas à ma femme si son mari est parfait encore, hein. Elle va vous dire que non, il n'est pas parfait. Bon, il a des bonnes choses, mais il n'est pas parfait encore. J'espère qu'elle vous dira ça. Mais l'œuvre continue à se faire. Et c'est ça qu'on veut. Hein? Donc, j'espère que quelque part dans ce que nous avons entendu, ça correspond à quelqu'un, à un stade particulier de sa foi, de sa marche avec Dieu. Et ce que nous voudrons voir, c'est que cette œuvre, ce qui s'est faite chez les Thessaloniciens, eh bien, se fasse dans chacun d'entre nous. Ce n'est pas une question comment le passé. Nous sommes en train de regarder à l'avenir. Hein. Nous sommes avec Jésus-Christ, nous pouvons lever la tête et regarder de l'avant et voir des bonnes choses. Je l'ai souvent dit avant, je dis, quand j'ai commencé l'œuvre de Dieu, à servir le Seigneur, hein, il y a 40 ans, j'ai commencé mon ministère, je croyais à ces choses. Mais vous savez, aujourd'hui, je crois encore plus. Pourquoi ? Parce que j'ai vu la transformation dans combien de vies ? Des situations impossibles où la parole de Dieu a pénétré et a changé les vies. Et donc, je remercie Dieu. Et je vous dis, cette parole peut vous apporter ce dont vous avez besoin. Il faut l'entendre, recevoir et puis laisser agir. Prions. Père Céleste, encore une fois, nous te remercions pour cette parole et ce message. Nous avons dit qu'il faut recevoir, et l'essentiel du message, c'est que Christ est venu, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Et Seigneur, nous avons besoin de toujours proclamer ces vérités et te laisser agir. Père, tu connais chaque cœur ce matin, tu sais où chacun se trouve, tu sais ce qu'il a vécu, ce qu'il a eu comme déception. Seigneur, nous voulons pas une adhésion à une religion chrétienne, mais ce que nous voulons, c'est un attachement à Jésus-Christ. Et c'est ça qui transforme les vies. Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen.